Idée, Pierre-Edouard Deldic.
Bonjour, merci d'être au rendez-vous. Nous allons vous proposer une réflexion comme chaque dimanche dans ce magazine qui interroge, vous le savez, celles et ceux qui pensent le monde. C'est l'objectif de ce magazine, vous donner à penser contre le prêt-à-penser. Insurrection des particularités, c'est le titre du livre qui va être au cœur de notre émission aujourd'hui. Il est écrit par la philosophe Chantal Delsol, qui est notre invitée. L'universel est remplacé par le particulier et l'universalisme par le particularisme, écrit-elle. Autrement dit, la nouvelle réalité, en même temps qu'elle apparaît, se voit théorisée et légitimée. De cela traite l'ouvrage, écrit-elle toujours, la nature du nouveau particularisme, ses justifications, ses modes d'être. Nous allons donc en parler dans un instant dans ce nouveau numéro d'idées que vous pouvez aussi écouter quand vous le souhaitez sur le site de la radio ou l'appli RFI. Bonjour Chantal Delsol.
Bonjour.
Je suis heureux de vous retrouver dans ce studio et poursuivre en quelque sorte la conversation que nous avions par exemple entamée en 2022, il me semble, pour les pierres d'angle.
Oui.
Nous sommes toujours ravis de vous accueillir. Et cette fois-ci, nous allons parler de l'insurrection des particularités, qui est une suite en quelque sorte de votre livre précédent, d'un de vos livres précédents, qui lui a été publié en 2020, qui s'intitule « Le crépuscule de l'universel ».
Oui, c'est ça, c'est ça. C'est, disons que la fin de l'universel donne lieu à la résurgence, oui, c'est une sorte de redéploiement des particularités. Donc finalement, c'est la suite et la conséquence. C'est la description des conséquences de la fin de l'universel.
Et vous êtes, dans ce livre, inquiète, Chantal Delsol. On sent l'inquiétude dans votre analyse.
Je ne trouve pas que ça soit tellement une bonne nouvelle, mais d'un autre côté, je ne suis pas du tout aussi pessimiste que certains que je vois autour de moi. Je ne suis pas du tout, bien sûr, pas du tout apocalyptique. Et au fond, je ne suis pas foncièrement pessimiste. Je pense que d'autres recompositions sont en train d'advenir. Alors, lesquelles vont être les plus importantes, on ne sait pas, parce que pour l'instant, il y a une sorte de chaos. Hein. Mais il y a des choses qui resurgissent. Je ne pense pas du tout que nous sommes dans le néant, dans le nihilisme, ni dans le relativisme, pas du tout, contrairement à certains autour de moi.
Mais est-ce que c'est un phénomène qui touche l'Occident, essentiellement ? Est-ce que c'est un phénomène occidental, selon vous, cette insurrection, je reprends le titre de votre livre, des particularités ?
Mais disons que l'universalisme et la pensée de l'universel est apparue en Occident. Donc, au moment où l'universalisme se défait, c'est en Occident que réapparaissent des particularités qui, par ailleurs, ont toujours existé partout ailleurs. L'universalisme, c'est quelque chose d'occidental, puisque c'est l'idée de vérité qui apparaît avec Parménide puis avec Platon, ce qui signifie, en fait, qu'une vérité qui est affirmée ici, est vrai partout, au Kamtchatka comme à Athènes. Ça veut dire ça, l'idée de vérité qui va devenir la science, en fait. Et puis, l'idée universelle apparaît en même temps avec l'idée d'un Dieu qui est le même pour tout le monde, c'est-à-dire avec les judéo-chrétiens, en fait. Dieu est Dieu pour nous, mais il est aussi Dieu au Kamtchatka. Voilà l'idée d'universel qui apparaît à la fois avec la science chez les Grecs et avec la religion chez les judéo-chrétiens. Ceci est occidental. Donc quand cette idée s'efface, elle s'efface pour commencer, elle s'efface en Occident.
Et ce qui est vrai, Chantal Delsol, pour les idées, elle est aussi en géopolitique, manifestement.
Mais bien sûr, oui. Bien
cette remise en cause de l'universel.
Naturellement, puisque à partir du moment où cette idée s'effondre, elle s'effondre dans tous les domaines.
Et d'ailleurs, vous écrivez « Rien de plus parlant que la situation des guerres pour comprendre la transition de l'universel au particulier ». Pour quelle raison ?
Parce que autour de nous, ça nous affole d'ailleurs, c'est assez normal. On voit des guerres se développer un peu partout. Pourquoi ? Parce que ça correspond à la fin de ce que j'appelle l'empire culturel occidental. L'Occident a eu un empire qui était d'abord un empire de conquête, et qui maintenant n'est plus un empire de conquête parce que nous en avons fini avec les conquêtes, mais est un empire culturel. À partir du moment où cet empire culturel s'efface, des guerres réapparaissent partout. C'est un peu comme tout empire, si vous voulez. Tout empire suscite la paix. L'Empire romain suscitait la paix. À partir du moment où l'Empire romain s'efface, vous avez des guerres qui apparaissent partout. Et là, donc ce sont les guerres qui, au fond, sont des conséquences de l'effacement de l'universel. Et c'est comme ça qu'on peut saisir, ne serait-ce que par la terreur qui nous étreint quand nous voyons des guerres apparaître partout, on s'aperçoit que l'universel est en train de se défaire.
Alors, il y a quelque temps de cela, dans cette émission, la dernière fois qu'il est venu nous voir, Souleymane Bachir Diagne, le philosophe que vous connaissez, lui nous parlait plutôt des universels. Est-ce que c'est un universel occidental qui est remis en question, pour être plus précis?
Et il y a plusieurs formes.
Un universel vu d'Occident, en tout cas.
Il n'y a pas que l'Occident qui développe l'idée universelle, parce qu'il y a notamment l'islam, qui, évidemment, sur les pas de l'Occident, puisque Mahomet est arrivé derrière le judéo-christianisme, mais enfin, il a suscité une religion qui, elle aussi, est universelle. Donc, il y a aussi ce cas-là. Et puis, il y a aujourd'hui, mais alors, je dirais que c'est tout récent, l'idée d'universel qui est déployée en Chine. La Chine, depuis peu de temps, depuis quelques décennies seulement, dit, nous aussi, nous avons un universel. Alors, qu'est-ce que c'est que l'universel chinois? C'est encore autre chose. Je dirais que c'est un universel d'origine. Bon, je prends un exemple à propos de la morale. Vous avez un universalisme du bien et du mal. C'est-à-dire que dans aucune culture mondiale, et ça depuis Cro-Magnon, et partout et toujours, dans aucune culture mondiale, vous ne voyez que la séparation, c'est le bien. La séparation, c'est toujours le mal. Diabolos. Et ça, il y a un universel. C'est-à-dire que le bien, c'est toujours la compassion, la solidarité, la paix, dans toutes les cultures. Donc là, vous avez un universalisme. C'est un universel d'origine. C'est pas un universel de finalité comme l'universalisme judéo-chrétien. Vous voyez, c'est un petit peu différent. En ce sens, on peut dire qu'il y a plusieurs types d'universel.
Chantal Del Sol, d'évidence, cet écroulement de l'universel fait surgir les particularités. Et derrière ce mot particularité, il y a un autre mot fondamental qui est au cœur de votre livre, c'est le mot individu.
Oui, parce que le déploiement des particularités, qui peut être le déploiement des nations, justement, qui luttent les unes contre les autres parce qu'elles se séparent de l'empire universel, de l'empire culturel européen, par exemple. Il peut y avoir aussi des communautés, mais ça peut aller, ça va aujourd'hui jusqu'à l'individu. C'est-à-dire que l'individu est une particularité qui défend son être propre et qui dit qu'il a droit à tout, qu'il a sa vérité même, sa vérité à lui, etc. Donc on va jusqu'à l'individu. Et actuellement, ce qui est intéressant, c'est que ce particularisme va jusqu'à un individualisme très fort.
On va y revenir évidemment, Chantal Del Sol, mais vous parlez même de nominalisme post-moderne. Nominalisme, oui. Hein, c'est cette doctrine, entre guillemets, qui prétend que ce qui explique que seules les choses singulières existent, que c'est l'individu, oui. Qui, le singulier. Qui...
Oui, lorsque le nominalisme historique s'est développé, c'est apparu comme quelque chose d'ahurissant et même à la limite de criminel, je mets le mot entre guillemets. Mais on peut dire qu'aujourd'hui, comme disait Michel Villet, qui est le juriste qui a le plus étudié cela et de façon très intéressante, aujourd'hui tout le monde est nominaliste à ce sujet. Enfin, si on parle du nominalisme de Guillaume d'Occam, tout le monde est nominaliste, c'est-à-dire qu'aucun d'entre nous n'a envie de dire... Ne pense que, par exemple, des concepts comme, l'humanité sont des réalités concrètes qu'on peut toucher. Pas du tout, ce sont des idées. Et les idées, c'est autre chose que des réalités. Seules les individualités sont concrètes. Donc, en ce sens, tout le monde maintenant est nominaliste. Donc, quand on parle de... Si on peut parler de... Je ne suis pas la seule à parler de nominalisme aujourd'hui. Ça veut dire... disons que l'on pousse à bout l'individualité au point de dire que les sociétés, les communautés, les groupes ne sont pas réels, seul l'individu existe, hein, et seul il a droit à s'exprimer. Donc c'est une sorte de nominalisme poussé à bout, si vous voulez.
Donc c'est une remise en cause du collectif.
Voilà, c'est une remise en cause du collectif et des liens communautaires et collectifs.
Oui, cet individu post-moderne se pense souverain. Alors,
se pense souverain, oui, et au fond, ça vient de l'histoire, on peut en reparler, mais il se pense souverain, il pense qu'il ne doit pas être rattaché ni à une communauté, d'un point de vue social et d'un point de vue affectif, ni à une vérité extérieure. C'est lui qui décrète de sa propre vérité, et chacun autour de lui va avoir une vérité différente.
Et ce qui provoque un malaise, d'ailleurs, vous reprenez dans votre livre, Chantal Delsol, la fameuse phrase de Woody Allen, « Dieu est mort, Marx est mort, et moi-même je ne me sens pas très bien », ce qui veut dire, à la façon Woody Allen, que la disparition, on y reviendra, de la religion, de cette idéologie marxiste, fait que l'homme est seul. Ce qu'avait dit Nietzsche, en quelque sorte.
Oui, parce que justement, dans notre culture, les liens, quels qu'ils soient, était rattaché d'abord à Dieu, et ça a duré quand même très longtemps, donc ça nous a énormément influencés. Hein. Et puis ensuite, à des idéologies, à plusieurs idéologies diverses, mais dont le marxisme n'était pas la moindre. Mais maintenant que, à la fois, la religion fondatrice et ce que Voegelin a appelé les religions séculières se sont effondrées, l'individu se trouve seul, il se dit « mais où sont mes liens, où sont mes ancrages, à quoi est-ce que je peux me raccrocher ?» Donc l'individu se sent seul et, comme dit Woody Allen, il se sent pas très bien parce qu'il sait plus à quoi se raccrocher. Mais il est en train de retrouver d'autres choses, hein. Il va pas rester longtemps comme ça, ça je pense pas.
Suite de ce numéro d'idées en compagnie de Chantal Delsol, et nous parlons de son livre « Insurrection des particularités » publié aux éditions du CERF. Chantal Delsol, cet individu souverain qui se croit seul et qui se croit, pour parler familièrement, tout permis, c'est aussi l'individu, là je vous cite, qui défend la morale parce que c'est lui qui la décrète et l'énonce.
Bien sûr, parce que je crois qu'on peut se passer de beaucoup de choses. On peut se passer d'idéologie, c'est pas plus mal d'ailleurs.
Oui.
On peut se passer de religion, parce qu'il y a beaucoup de peuples. C'est discutable, mais on peut dire qu'il n'y a pas de religion en Chine. Il y a des spiritualités très fortes, mais on peut discuter. Mais moi, il me semble que ce ne sont pas vraiment des religions. Donc on peut se passer de religion, même si on ne peut pas se passer de spiritualité, mais on ne peut pas se passer de morale. Il n'y a pas de peuple sans morale. Et aucun individu ne peut se passer de morale. Donc aujourd'hui, s'il y a quelque chose qui ne nous manque pas, c'est bien la morale. D'ailleurs, elle part dans tous les sens. Elle est énorme. Elle veut remplacer la politique. Enfin, c'est complètement aberrant. Mais on ne peut pas s'en passer. L'individu, il est tout seul peut-être, mais il va recréer une morale. Alors il va la créer comme il veut. Hein. Ça va être bizarre, mais on ne peut pas s'en passer. C'est pas possible. Hein.
Et c'est une morale tournée vers l'individu. C'est-à-dire, c'est une morale qui n'est pas là pour régir la collectivité, le collectif, mais pour en quelque sorte, faire plaisir à l'individu, si je schématise.
Oui, sauf qu'il y a aussi des injonctions pour de compassion vis-à-vis de l'autre. Regardez la morale du Caire, qui est quelque chose de tout à fait détaché de la religion et qui a des adeptes qui se développent avec des... des généralisations. Donc, si vous voulez, nous avons besoin de nous occuper de l'autre aussi. C'est quelque chose d'humain. Il ne faut pas s'imaginer que ça disparaît comme ça. Je ne crois pas du tout. Mais ça part dans tous les sens, parce que nous n'avons plus d'accroche.
Et vous notez que cet individu, dans cette insurrection des particularités, un mot a cédé la place à un autre, c'est le mot sociétal qui a en quelque sorte remplacé le mot social.
Oui, alors ça c'est assez intéressant, ça correspond avec le déferlement du wokisme dans nos sociétés, le fait qu'on s'occupe beaucoup moins du social, et maintenant on s'occupe énormément de ce qu'on appelle le sociétal,
c'est-à-dire tout est sociétal, en
au fond des mœurs personnelles. Ça me frappe beaucoup de voir que, par exemple, dans la filmographie de notre temps, on ne s'occupe plus du tout des choses communes, mais uniquement des choses intérieures à la famille, aux toutes petites communautés. Ce qui est très important d'ailleurs aussi. Mais toute notre époque est faite en sorte que l'individu ne veut plus s'occuper que de ses petites communautés.
Et d'ailleurs, vous citez Tocqueville, que vous connaissez par cœur, Chantal Delsol, qui écrivait ceci, ne lui parlez pas des intérêts et des droits du genre humain, donc à l'individu. Cette petite entreprise domestique absorbe pour le moment toutes ses pensées et lui fait souhaiter de remettre les agitations publiques à un autre temps. Cela ne les empêche pas seulement de faire des révolutions, mais les détourne de le vouloir. Les violentes passions politiques ont peu de prise sur des hommes qui ont ainsi attaché toute leur âme à la poursuite du bien-être. L'ardeur qu'ils mettent aux petites affaires les calme sur les grandes.
Oui. Oui. Et c'est pour ça d'ailleurs que quand vous êtes malade un dimanche, vous ne pouvez plus trouver de médecin. Alors qu'il y a 40 ans, le médecin, il était sur le pont jour et nuit tout le temps. Il délaissait sa famille, d'ailleurs. Moi qui suis l'épouse d'un homme politique, ça ne me gêne pas trop de voir que les politiques, maintenant, s'occupent de leur famille, vous voyez. Donc, je pense qu'on a trop exagéré. On a été beaucoup trop loin dans l'autre sens. Et actuellement, c'est pour ça qu'il y a du bien aussi dans cette société. Il y a des belles choses, franchement. Je le pense aussi. Moi, c'est pour ça que je ne suis pas du tout quelqu'un à dire... voilà, tout est nul, tout est affreux.
Dans la revue Odysseus que vous dirigez, que
oui,
vous avez
avec
créé,
Johanna Nowitzki,
il me semble, vous consacrez dans le numéro 2024-2025, qui pose cette question « L'Occident en déclin », vous consacrez un article, un portrait de l'homme occidental, en quelque sorte, qui est intitulé « De la douceur démocratique à la sagesse asiatique ». Portrait philosophique de l'occidental contemporain. C'est celui qui veut vivre, pour parler très familièrement, peinard.
Oh, ça va plus loin que ça quand même.
Je schématise exprès pour vous faire réagir.
Il y a un livre d'Edmond Husserl sur il y a un siècle, donc Edmond Husserl, c'est notre maître à tous les philosophes, un livre sur la culture occidentale, et à la fin il dit, il y a une phrase tout à fait vers la fin, où il dit toutes les cultures se sont européanisées, mais nous autres, nous ne nous indianiserons jamais. Et il avait tort. On est en train de s'indianiser. C'est pour ça que je parle de cette culture asiatique. Qu'on pourrait essayer de résumer en disant « laissez-nous tranquilles », mais ça va plus loin que ça. Ce sont des formes de spiritualité, au fond. Parce que nous sommes des êtres qui avons besoin de spiritualité parce que nous savons que nous devons mourir. Et ça nous incite à savoir peut-être s'il y a quelque chose derrière la porte. Au fond, c'est ça, l'histoire. Donc, comme nous sommes en train de nous détacher de notre religion fondatrice, ben nous allons chercher dans les cultures asiatiques des spiritualités qui nous manquent.
Dans le yoga, par exemple, ou
par
la méditation.
Oui, c'est ça, des choses comme ça. Et ça peut être, c'est très 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 profond et très intéressant. Je suis pas du tout à ridiculiser tout ça, loin de là. Mais je dis simplement que là, il y a un processus qui est quand même assez important. Moi, j'ai un certain nombre d'étudiants, d'anciens étudiants. Qui sont en train de devenir des bouddhistes japonais ou des... Voilà, des choses comme ça. C'est assez intéressant à regarder.
Et ce qui veut dire quand même que cet individu post-moderne est à la recherche toujours de quelque
chose. Bien sûr. On ne peut pas rester comme ça, suspendu en l'air, dans le néant. Ce n'est pas possible. Donc, on cherche autre chose. Et on va à la rencontre de pensées qui existent déjà, qui ont fait leurs preuves, qui existent ailleurs. On va fouiller... Bon, c'est intéressant.
Chantal Delsol, dans Insurrection des particularités, donc vous analysez les conséquences de ce surgissement extrême de l'individu et vous vous posez des questions sur, alors là c'est aussi une question très actuelle, des questions sur la vérité. la notion de vérité, car à l'heure des particularités, voire des particularismes, chacun a sa vérité, finalement.
Bien sûr, c'est bien ça le problème.
Pense avoir sa vérité.
C'est bien ça le problème. C'est pour ça que j'ai fait un chapitre sur la question de la vérité, parce que je trouve qu'il y a...
La raison s'efface.
Il y a une sorte de retour qui est quand même assez inquiétant à la préscience, celle que décrivait Bachelard dans son livre célèbre sur le nouvel esprit scientifique. Il y a deux ou trois chapitres sur les périodes avant la science moderne, où on voit que les gens sont attachés à des mythes. Bon, c'est important les mythes, et il ne faut pas non plus les ridiculiser systématiquement, pas du tout, c'est pas ça que je veux faire, mais la science c'est autre chose. La science c'est la rationalité et c'est l'universalité, c'est-à-dire qu'une affirmation scientifique qui est vraie ici, elle est aussi vraie ailleurs. Or aujourd'hui, on est en train, pour des raisons de morale, de revenir à des périodes pré-scientifiques. Bon, j'ai donné un certain nombre d'exemples. Le pays où ça se passe le plus, à mon avis, c'est le Canada. Parce qu'ils ont des populations dites des peuples premiers, on dit ça maintenant, on les appelle des peuples premiers, qui ne veulent plus passer par par la science moderne pour des raisons... pour les choses médicales ou autres. Et les Canadiens, il y a tout un courant au Canada qui dit, mais après tout, ils ont raison aussi, leur science est aussi bonne que la nôtre. Vous voyez, ils sont en train de systématiquement de mettre en accusation les vérités scientifiques et de dire, mais après tout, eux, ils ont une science à eux et nous avons une science à nous. Ce qui revient un petit peu, finalement, à ce que faisaient les communistes à l'époque de Lysenko, qui disaient, il y a finalement, à propos des gènes, parce que c'était un problème, les gènes, pour les communistes. Il y a une science bourgeoise et une science prolétarienne, et les deux ont raison. C'était d'ailleurs la même chose que faisait l'Église catholique à l'époque de Galilée, quand elle avait inventé des affirmations comme ça. Ben, Galilée a raison quand il dit que la Terre tourne autour du Soleil, mais l'Église a raison aussi quand elle dit que le Soleil tourne autour de la Terre. Vous comprenez ? Alors là, quand on en arrive à des choses comme ça, c'est quand même angoissant, parce que... Vous voyez, ça, je trouve que c'est vraiment embêtant.
Alors, vous égratignez, Chantal Delsol, les déconstructeurs dans ce livre. Vous écrivez ceci. La question de la vérité est centrale depuis le degré zéro de l'écriture de Roland Barthes en 1953 jusqu'au mot et les choses de Michel Foucault en 1966 ou la différence de Jacques Derrida en 1968. C'est le sens qui vole en éclat, le lien entre les mots et les choses, entre le signifiant et le signifié. Tout est chaos. Ou bien mensonge, s'il y avait une volonté derrière ce chaos pour nous asservir, il n'y a plus de vérité, seulement des narrations relatives des mythes.
Oui, vous vous êtes rendu compte comme moi que dans le langage politico-médiatique, on parle maintenant de narratif.
Ah oui.
Donc on ne dit plus quelque chose est vrai, on dit il y a un narratif. Comme si il n'y avait plus que des discours, chacun peut avoir son discours, chaque groupe peut avoir son discours. Et ça, effectivement, ça nous vient de la philosophie de la déconstruction qui décrète, pratiquement, qui affirme qu'il n'y a plus de vérité universelle. Ça vient beaucoup de là. Et maintenant, ça se développe. Et comme toujours, évidemment, ça touche des publics semi-instruits qui trouvent que c'est chic de penser ça. Et donc, ils partent comme... Ce sont des gens qui ne détiennent pas tous les fils, qui partent vers du n'importe quoi. Et ça, c'est quand même très embêtant aussi.
Oui, parce qu'il y a souvent, derrière cette déconstruction, la pensée qu'il y a un complot, qu'il y a des non-dits, voilà. Qu'il y a une volonté secrète.
Il peut y avoir toutes sortes de choses.
Oui.
Et donc... Bon, ça c'est très embêtant parce que ça nous emmène un peu n'importe où. Ouais.
Chantal Delsol, dans ce livre que je recommande parce qu'il est, il donne à réfléchir et il secoue un peu, vous parlez des passions aujourd'hui, puisque l'individu est roi, il s'exprime, il fait sa morale, il a sa vérité et il est passionné. Et vous dites que l'individu post-moderne finalement est un amoureux, c'est-à-dire qu'il se fie beaucoup trop à ses passions.
Alors ça ne date pas uniquement de notre époque, bien entendu, il y a toujours eu, et c'est très bien, parce que nous ne sommes pas seulement des êtres rationnels, nous sommes aussi des êtres de sentiments et de passions. Mais lorsque les sentiments et les passions s'attachent davantage que la raison à la vie tout entière, et finalement décident de ce qu'il faut penser, de comment il faut agir, je pense que c'est finalement assez grave. On a maintenant des théoriciens qui prétendent qu'on peut faire de la politique à partir des passions ou à partir des sentiments, mais moi je pense quand même qu'il faut d'abord s'attacher à la raison. Je pense que c'est quand même beaucoup plus important, même si les passions ont leur mot à dire.
Parce que cette remise en cause de l'universel, c'est aussi la remise en cause des lumières, de ce que nous appelons en France les lumières.
Bien sûr. Parce que ce sont les lumières qui mettent la raison en avant, hein, qui remplacent d'ailleurs la religion, qui mettent la raison en avant à la place, mais qui, naturellement, confèrent à la raison ce rôle universel qu'elle a toujours eu, et insistent sur ce rôle universel en disant que l'émancipation des lumières, qui est quelque chose, d'après les lumières, de rationnel, doit se développer dans la Terre entière pour cette raison-là. Les lumières sont universalistes parce qu'elles sont rationnelles, parce qu'elles se disent rationnelles. C'est ça que nous sommes en train de perdre aujourd'hui. Et c'est pour ça que vous avez des groupes d'individus assez importants qui disent, après tout, on ne voit pas pourquoi on va demander à d'autres peuples de s'émanciper comme nous. Après tout, les femmes afghanes qui sont enfermées chez elles, après tout, c'est leur culture, ils ont raison autant que nous. Donc ça, c'est l'universalisme des Lumières qui s'efface.
Et il y a cette passion pour l'égalité. Vous citez à nouveau Tocqueville qui nous disait que dès l'instant où l'égalité s'est installée dans un pays, dans un régime, chacun se sent beaucoup plus inégalitaire que dans une situation d'inégalité que l'autre. Et le problème, c'est qu'il ne peut, il ne doit compter que sur lui-même. Il ne peut pas se retourner vers un gouvernement. Pour Tocqueville, le malaise est celui-là. Vous écrivez, Tocqueville avait déjà montré qu'aussitôt établie l'égalité théorique et reconnue, l'égalité des droits à tous, chacun ne se trouve plus séparé du niveau le plus haut que par ses propres moyens. C'est une grande déception. Il devient impossible de désigner un coupable extérieur pour expliquer sa propre insuffisance. Là aussi, ça crée un malaise supplémentaire.
Oui, l'individualisme crée un malaise parce que l'individu, dès lors, est complètement responsable de tous ses actes. Et donc, c'est presque un peu effrayant pour lui, parce qu'il ne peut plus, effectivement, il ne peut plus désigner de coupable extérieur, puisqu'il est entièrement souverain. À partir du moment où vous êtes souverain, vous ne vous en prenez qu'à vous-même si vous arrive malheur. Et il y a beaucoup de... Enfin, tout le monde n'est pas suffisamment fort pour... être parfaitement responsable de tout ce qui lui arrive. Et puis d'ailleurs, nous ne sommes pas entièrement responsables de tout ce qui nous arrive. C'est pas vrai. Il y a aussi la malchance, il y a aussi toutes sortes de choses. Donc ça crée finalement des sociétés remplies de gens frustrés parce qu'ils ne peuvent pas obtenir tout ce qu'ils veulent par eux-mêmes alors qu'on leur dit « tu peux tout faire ». Et puis de gens malheureux parce que justement, ils sont affolés par une responsabilité trop forte qu'on leur met sur le dos. Mais c'est pour ça que les individus restent pas longtemps des individus souverains. Ils ont besoin d'une famille, ils ont besoin des proches, ils ont besoin des amis. C'est pour ça que se développent des morales du type care, pour dire voilà, il y a des groupes, mais la famille joue un grand rôle aujourd'hui. Alors peut-être c'est pas les familles qu'on peut espérer, certains qui veulent...
C'est ce que vous dites dans votre portrait dans Odyssée.
Voilà, on peut vouloir la famille traditionnelle, mais ça peut être des familles bizarres, recomposées, etc. Mais ça n'empêche que la famille compte, et qu'on peut pas dire que l'individu d'aujourd'hui est quelqu'un de purement égoïste, qui ne pense qu'à lui-même, c'est pas vrai. Il a énormément d'attrait pour sa famille et il veut la protéger, même si ça se passe pas exactement comme il y a 50 ans, d'accord. Mais il y a toujours ces sentiments...
Ces sentiments et cette famille, la famille, considérée comme un refuge,
bien
en
sûr,
quelque sorte.
Bien sûr. Et si on regarde d'ailleurs Si on interroge sociologiquement, si on fait des, on voit que l'individu, que la famille compte beaucoup pour chaque individu. Donc, faut pas du tout s'imaginer que c'est devenu un égocentrique complet. Tout simplement parce que nous ne sommes pas faits comme ça. Hein. Je pense que c'est purement, c'est naturel. Il y a des formes de morale naturelle, de compassion naturelle, d'attachement naturel, de lien naturel. Voilà.
Mais toujours avec des gens que l'on a choisis, et pour cause, hein, la famille, au détriment, je dis ça en pensant à la désaffection pour la politique, par exemple, à l'engagement politique, comme si, encore une fois, ce repli familial était un refuge contre toutes les menaces extérieures et une forme de désaffection aussi du politique.
Oui, bon, puis il y a eu une grande déception face aux politiques, ça c'est certain. En tout cas, dans nos contrées, on a l'impression d'avoir eu au-dessus de nous des gouvernants qui parlent et qui ne font rien, qui vivent un peu comme des nababs. Enfin, c'est surtout vrai pour la France, parce que la France, au fond, est un pays autocratique. Hein. Quand vous avez un gouvernant qui passe et est suivi par 15 voitures à pimpon, ce qui n'est pas du tout le cas en Suisse, par exemple. Donc, ça dépend aussi des pays. Mais il y a une grosse déception vis-à-vis du politique, ça c'est sûr.
Mais ça se paye sur le plan politique, justement, avec l'émergence de ce que l'on appelle le populisme. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de revanche aussi.
Bien sûr,
aussi.
Bien sûr. Mais vous savez,
moi,
ce qui se passe avec Trump ces jours-ci,
oui.
je regrette qu'il ait fallu attendre d'avoir quelqu'un de vulgaire et de brutal pour abolir les inepties de la gauche, mais... Je suis quand même contente que quelqu'un arrive et abolisse les inepties de la gauche, je suis désolée de le dire, mais nous avons quand même des courants de pensée, et c'est surtout vrai en Europe, c'était vrai aussi aux États-Unis, qui arrivent à vous faire croire que la vie internationale, ça va être uniquement le droit et pas du tout la force. Donc il faut plus armer, il faut plus développer d'armée parce que maintenant ça va être uniquement le droit international. C'est pas vrai.
Le sens contraire.
Qu'un pays n'a plus à s'occuper de ses intérêts, mais il va s'occuper uniquement de morale, c'est pas vrai, ça n'existe pas. Un pays souverain, il faut qu'il s'occupe de ses intérêts. Il ne faut pas avoir peur de prononcer ce mot, et pas des intérêts du voisin, ou pas de la morale universelle. Donc, il y a un moment où il faut quand même revenir un petit peu sur terre, s'apercevoir que nous avons des voisins dangereux, que, comme disait mon maître Julien Freund, l'ennemi, c'est pas nous qui le choisissons, c'est lui qui nous choisit. Et donc, des choses comme ça, c'est ce que j'appelle les inepties de la gauche. Vous voyez, il y en a beaucoup d'autres, hein, mais je pense qu'un jour, il faut qu'un individu arrive et dise « bon, maintenant c'est bien, ça suffit, quoi ».
Est-ce que ce n'est pas la question, le problème qui est posé à l'Europe aujourd'hui, qui essaie d'inventer un modèle, entre guillemets, qui donne à penser, selon certains, que c'est le ventre mou, en quelque sorte, de la
exactement.
Planète.
Mais vous savez, actuellement, je suis en train de travailler sur l'Antiquité, la fin de l'Empire romain. C'est un peu ce qui se passait entre Rome et la Grèce. Hein. C'est-à-dire que c'est nous qui apportons la culture, ça c'est certain, mais nous sommes un ventre mou, en effet, et actuellement, les Américains nous regardent en ricanant, et on peut les comprendre, hein, parce que quand on se trouve en face de Poutine et qu'on dit aux Ukrainiens, ben, on va vous envoyer des casques, ben, y a un moment où il faut que cette illusion s'arrête, quoi, parce que sinon, on va se faire manger.
Ça rejoint d'ailleurs cette question de l'individu, c'est-à-dire que l'individu souverain a du mal à concevoir la guerre, finalement.
Ah bah,
le danger que représente la guerre. Replié
oui.
qu'il est dans sa,
oui, oui, mais
dans sa cellule familiale et dans son univers, oui. où lui est au cœur.
Oui. Parce que la guerre, ce sont les groupes extérieurs, les communautés, les collectifs extérieurs. Imaginez qu'ils peuvent nous vouloir du mal. Voilà, il faut un tout petit peu de lucidité pour penser à ça. Mais si on n'y pense pas du tout, on finit par se faire manger.
Thank you. Suite de ce numéro d'idées en compagnie de Chantal Delsol, nous parlons d'insurrection des particularités, son dernier livre en date, publié aux éditions du Cerf. Vous parlez également, dans cette toute puissance de l'individu, vous parlez d'un caractère quasiment sacré, d'ailleurs, aujourd'hui. Vous dites que peut-être qu'on va vers un isolat sacré et que l'homme va vraiment se considérer comme finalement éternel. Je dirais presque surhumain.
J'ai fait exprès une toute petite partie pour vraiment qu'elle se distingue des autres.
Oui.
Une partie de 4 pages, il me semble, 4 ou 5 pages, qui s'appelle « Un isolat sacré », parce que je suis assez frappée de voir que l'individu finit par se distinguer, et à l'extrême, actuellement ce sont des extrêmes, c'est pas tout le monde, et heureusement, mais à l'extrême, on ne veut plus d'enfants et on ne veut plus mourir. Donc vous avez à la fois le phénomène de la dénatalité volontaire, sur laquelle j'avais organisé un colloque avec plusieurs amis il y a quelque temps, et c'est assez intéressant comme sujet, et à la fois vous avez un individu qui ne veut plus d'enfants, enfin disons un certain nombre d'entre eux, parce que c'est pas tout le monde, et qui en même temps pense qu'il ne va plus mourir, puisque les gens de la Silicon Valley vous disent « bon, c'est dans 20 ans, c'est dans 30 ans, c'est... » Parfois même, vous dites, c'est dans 15 ans, on ne mourra plus. Bon. Alors, naturellement, on sait bien que c'est une manière de parler, parce que bien sûr que si, on va mourir, mais peut-être dans 100 ans, dans 200 ans, dans je ne sais pas. Mais ce qui m'intéresse, c'est pas la science elle-même là-dessus, parce que d'abord, je connais pas, je suis pas scientifique, mais c'est ce désir, si vous voulez. Ce désir à la fois de ne pas avoir d'enfants et de ne plus vouloir mourir, comme si nous allions nous établir avec une population stable, toujours la même. Je trouve que c'est assez effrayant. C'est assez effrayant, disons, que nos désirs profonds, d'un certain nombre d'entre nous, ça soit ça. Vous voyez, c'est quand même significatif d'une volonté de ne plus exister tel que nous sommes.
Et pourquoi parlez-vous, Chantal Delsol, dans ce livre, de l'isolement souverain de chaque génération ?
J'étais très frappée de toutes ces choses postmodernes viennent de la Révolution française, oui, mais aussi beaucoup de la Révolution américaine. Et j'ai été très frappée d'un certain nombre de textes américains, j'en ai cité un là, je crois que c'est une lettre d'Emerson, à son gendre, me semble-t-il, de mémoire, qui dit...
John Wells Epps, c'est une lettre de 1813.
Voilà, qui dit « Chaque génération est souveraine. Une génération ne doit rien... » à ses ancêtres et ne doit rien à ses descendants. Elle est souveraine comme un pays souverain. Je suis très frappée de ça, parce que pour moi, c'est complètement faux. Moi, je suis complètement dans l'état d'esprit, au contraire de Chesterton, quand il dit « il faut promouvoir la démocratie des morts ». Et je pense que dans nos assemblées, quand nous sommes en démocratie, dans nos assemblées doivent siéger nos morts et nos arrière-petits-enfants. Toutes les générations réunies, c'est-à-dire qu'à la fois, nous devons assumer ce que nos morts ont fait. Moi, je ne suis pas pour être dans la culpabilité vis-à-vis de la colonisation, même si je considère que la colonisation était vraiment un truc de fou. Mais je ne suis pas dans la culpabilité. Je ne pense pas qu'il faille mettre nos ancêtres au pilori ou les mettre... Pas du tout. Ils étaient dans une certaine situation qui n'est pas la nôtre. Ils ont eu leurs raisons. Je pense qu'il faut essayer aussi de les comprendre. Mais en même temps, il faut assumer ce qu'ils ont fait. Et je pense que si on a beaucoup de gens du Maghreb en France, c'est parce qu'ils parlent français. Et s'ils parlent français, c'est pas à cause de rien. C'est parce que nos ancêtres ont colonisé l'Algérie. Donc, il faut que nos ancêtres siègent dans nos assemblées parce qu'il faut assumer ce qu'ils ont fait. En même temps, il faut assumer ce dont nos petits-enfants ont besoin. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on arrête de faire des dettes. Donc, je suis pas du tout dans l'état d'esprit d'Emerson. Mais je pense que nous tirons actuellement des conséquences de ce que des gens comme ça ont écrit. Penser qu'une génération peut être souveraine, ça me paraît fou. Donc c'est pour ça que j'ai insisté là-dessus.
Et c'est, entre parenthèses, aussi la négation d'une histoire, de l'histoire, d'une histoire nationale,
bien
par
sûr,
exemple.
Bien sûr, oui. Ouais. Et donc, si vous voulez, nous venons de la Révolution française, nous venons aussi de la Révolution américaine, qui a beaucoup fait dans nos esprits. Donc, je trouve que c'est intéressant. Et si tout ça vient de la Silicon Valley, c'est pas pour rien. Vous voyez ? Je pense que c'est important de signaler ça.
Il vous inquiète d'ailleurs, les patrons de la Silicon Valley.
Ah oui, oui, parce que même si tout ça, c'est un peu des folies, mais quand même, ça laisse des traces. Je pense que ça laisse des traces. Et tous ces désirs d'immortalité, ça nous empêche de vivre la vie, entre guillemets, mondaine au sens du monde, correctement. Enfin, parce que ce sont des rêves idiots, et voire même criminels, enfin, je pense.
Chantal Delsol, à la fin du livre, vous dites que nous vivons aussi une époque paradoxale, parce que cet universalisme en crise renaît en quelque sorte d'une autre manière, parce que vous dites que l'individu postmoderne se veut aussi universel. C'est-à-dire qu'il veut, il veut exporter en quelque sorte sa façon de voir les choses.
Bah, disons que je pense que nous avons gardé la structure de notre esprit, parce que c'est ça, l'universel. Nous avons gardé l'universel comme structure de notre esprit. Donc, y a à la fois chez nous, actuellement, on est dans une sorte de maelstrom, on est un peu dans l'œil du cyclone. Tous les courants sont possibles, il y a plein de choses qui se contredisent, parce qu'on vient de quitter ce qui nous était cher et on ne sait plus très bien où on va.
Ce qui n'est pas sans intérêt sur le plan intellectuel, d'ailleurs.
Naturellement, c'est pas vous que je veux dire. Très, très intéressant. Mais il y a des gens qui vont vers le particularisme. J'ai dit tout à l'heure tous les courants woke et apparentés qui disent, mais après tout, les autres civilisations ont bien le droit d'enfermer leurs femmes, etc. Après tout, c'est leur culture. Bon. Et puis, vous avez aussi des courants universels qui ont conservé la structure de notre esprit ancienne et qui disent, mais il faut que tout le monde pense comme nous. Donc, il y a aussi ça. C'est pour ça que j'ai fait un chapitre à la fin pour montrer que ça existe aussi, notamment, par exemple, au cœur de l'Europe institutionnelle. Donc, tout ça se télescope, tout ça est parallèle, tout ça est télescopé, tout ça existe. Vous avez aussi actuellement un courant écologiste qui est très très puissant.
D'ailleurs, vous dites à propos des écologistes qu'ils ne comprennent pas forcément la réalité des choses, et ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure, ce que vous expliquez dans le livre sur la vérité. Vous dites que la peur, souvent des écologistes, c'est une peur exagérée qui repose sur...
Ah bah oui, je pense qu'on peut pas être ancré complètement sur la peur. Ça me paraît ahurissant. Et ce qui m'étonne le plus dans l'affaire de l'écologie, c'est l'apocalyptisme. Parce que depuis une cinquantaine d'années, je dirais même depuis Anders, en fait, parce que c'est Gunther Anders qui est vraiment celui qui a mis en place toute cette pensée. C'est un très très grand auteur, à mon avis pas assez connu. Depuis la bombe atomique et la Shoah, nous avons des apocalypses successives. Et nous avons eu plusieurs tentatives d'affirmer des apocalypses. Et il faut quand même se souvenir qu'il y a une quarantaine d'années, je crois, on a craint l'apocalypse par gel de la Terre. Il y a même eu une première du Point, je crois, à l'époque, ou de l'Express, je ne me rappelle plus, qui montrait la Terre en banquise. Donc c'était pas le réchauffement, là c'était le refroidissement. Et puis il y a l'apocalypse bien sûr par le climat, le réchauffement climatique. Et puis il y a aussi l'apocalypse, il y a 10 ans on nous disait que la Terre allait être trop pleine. Maintenant on nous dit qu'elle va être trop vide. Donc ce que je trouve bizarre, c'est que ce sont toujours des apocalypses différentes qu'on nous promet. Ce qui prouve que la bombe, elle n'est pas dans la rue, elle est dans la tête, je pense. Et ça, c'est quand même intéressant.
Ce qui ne veut pas dire, pour que les choses soient claires, que vous remettez en cause le réchauffement climatique.
Non,
vous
mais bien
dites
sûr que non.
Simplement, il faut dire les choses toujours très précisément.
Bien sûr que non, je sais bien qu'il
faut
y a des problèmes
rester
énormes.
Rivé sur ce que dit la science.
Naturellement, il y a des problèmes énormes. Et simplement, j'aimerais bien qu'on reste dans la science et qu'on ne tombe pas dans l'apocalyptisme, voilà, dans l'écologie politique. Dans l'horreur, dans l'affreux, dans les développements aberrants. J'aimerais bien qu'on soit raisonnable, quoi, voilà.
Alors, ce qui semble intéressant parmi beaucoup d'autres choses dans ce que vous dites, Chantal Delsol, c'est que vous n'êtes pas pessimiste. J'en reviens sur ce que vous disiez tout à l'heure, parce que ce livre, cette façon de voir les choses pourrait donner l'impression que finalement vous êtes inquiète de voir cet individu se réclamer souverain, mais c'est pas ça, pas du tout.
Non, mais j'ai des inquiétudes. Mais je n'ai pas une inquiétude avec un grand I, au sens où, d'abord, je ne pense, on ne me fera jamais dire c'était mieux avant, jamais. Ne serait-ce que parce que je suis une femme et qu'une femme ne peut pas dire c'était mieux avant. Enfin, c'est... Ou alors, il faut être vraiment bizarre. Enfin, je suis prête à discuter, mais Bon, je pense que par rapport à ma grand-mère qui était née en 1900, mes deux grand-mères d'ailleurs qui étaient nées en 1900, j'ai une chance folle. Enfin, ne serait-ce que de pouvoir être avec vous et discuter de philosophie avec vous. Enfin, jamais aucune de mes grand-mères n'a eu cette possibilité, alors que je pense qu'elles avaient toutes les deux les capacités de le faire, de faire des choses comme ça. Voilà. Donc jamais je dirais que c'était mieux avant. Je pense qu'aujourd'hui, nous avons un certain nombre de chances, il y a des choses très positives. Je n'ai pas une inquiétude avec un grand I, je ne pense pas que nous allons par le fond. Je ne pense pas du tout ça. Mais je constate quand même que nous sommes dans un maelstrom. Nous sommes dans une recomposition et je ne sais pas où ça va aller. Donc, on peut avoir des inquiétudes.
Et vous dites quand même qu'il faut qu'il y ait une tentative confuse, plus ou moins, de néant, enfin de nihilisme. Alors, même si vous le rejetiez tout à l'heure, vous écrivez « La tentation du néant représente le symptôme majeur de la postmodernité ».
Oui, parce que je pense qu'à chaque époque de recomposition, il y a une tentative. Il y a des tentations et des tentatives de nihil. Si vous prenez, vous savez, le nihilisme, quelque chose d'assez... pas uniquement occidental d'ailleurs, parce qu'un grand auteur chinois, Liang Shuming, dit que... La culture de l'Inde tout entière cherche le néant, donc vous voyez. Mais c'est apparu chez nous, on peut dire, avec Diogène le Cynique, le nihilisme.
Le fameux.
Voilà. C'était une tentative et une tentation. Diogène le Cynique, dans son tonneau, disait...
Il cherchait l'homme.
Il faut pratiquer l'inceste, oui, il faut coucher avec sa mère, machin. Mais les Athéniens le trouvaient très sympathique. Quand des voyous lui ont cassé son tonneau, ils lui ont acheté un autre tonneau. Mais jamais ils auraient pu le prendre pour modèle, parce qu'ils savaient très bien que c'était un intellectuel. Il disait aussi des trucs sensés. Et bon, on n'allait pas le prendre au sérieux. Aujourd'hui, c'est ça, vous avez des tentatives et des tentations nihilistes parce que nous sommes en période de recomposition. Il faut les regarder avec attention parce que c'est des gens intelligents, souvent. Vous avez parlé de constructeurs tout à l'heure. Des gens comme Derrida sont des gens intéressants. Mais ce n'est pas là-dessus qu'on va prendre modèle pour vivre. Vous voyez, c'est tout.
Merci Chantal Delsol. Je recommande votre livre qui s'intitule « Insurrection des particularités ». Il est publié aux éditions du CERF. Merci d'être
venu. Merci beaucoup.
Idée réalisée évidemment par Vanessa Rovansky. Retrouvez-nous sur l'appli RFI par exemple. Nous vous donnons rendez-vous dimanche prochain pour la suite de nos idées. Dans un instant, un nouveau journal sur RFI.